Bienvenue à votre Cinébrunch, votre magazine de cinéma en Estrie et sur Internet. Mon nom est Jim Boulay, je suis en compagnie, comme chaque semaine, d'André-Jean Rouleau et de Mélina Lopez-Nadeau. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Et cette semaine, comme une fois par mois, on a l'habitude de le faire, on accueille un invité tout spécial, directement venu du Kino Show international, François Genet, l'animateur du Kino Show.
Mais oui, tout à fait. Bien le bonjour, c'est mon titre.
Bonjour,
officiel.
Bienvenue à, encore. C'est toujours plaisant de t'avoir avec nous. La dernière fois, tu es resté toute l'émission. Je pense que tu vas faire la même chose cette semaine.
Je vais faire la même chose, mon autobus passe pas, c'est pour ça la fois que je suis obligé de rester là jusqu'à la fin de l'émission.
Ouais, c'est pas comme à Montréal, la sieste est un petit peu plus lente.
Tout à fait.
Ouais, notre émission est moins intéressante que... Non, c'est une comparaison qu'il faudrait pas faire. Hein.
Quand même pas.
Je pense que tu vas voir, ça va être intéressant.
J'ai envie de dire, parle pour toi, André-Jean. Mais rendu là, justement, André-Jean qui va nous préparer pour la deuxième demi-heure de l'émission, une petite spéciale...
bloc d'informations, on va traiter du cinéma américain. En fait, je suis rentré dans une immense série de trois blocs qui vont traiter du cinéma américain. Et ce sera donc le bloc 1 aujourd'hui et vous me reverrez probablement, je crois que ce sera aux 3 semaines là, que vous allez m'entendre parler
de ça. C'est comme des Legos, il y a plein de blocs.
Exactement,
oui, c'est merveilleux. On va jouer avec tout ça un peu plus tard dans l'émission. Sinon, André-Jean, tu vas aussi nous faire une critique d'un film, d'une comédie de l'âge d'or.
Oui, Les Vieux Fourneaux, en fait, qui sont sortis, qui est sorti le 4 janvier.
Bon, écoute, un peu plus tard dans l'émission, mais dans pas si longtemps. Mélina, de ton côté, tu as vu un film Netflix cette semaine.
Oui. Le film qui s'intitule Roma.
Voilà, Roma. Donc, dans quelques minutes, on aura la chance d'en
jaser. C'est une pause judicieuse qu'elle a fait là. Je pense que c'est en lien avec le film. Là, je dis
voilà.
Ça comme ça.
Il y a de la contemplation là, dans tout ça. Alors, excellent. Et évidemment, on va parler du Kino Show avec François Genet. Mais j'ai aussi critiqué pour vous le film Les Filles du Soleil. Un film beaucoup plus léger que les vôtres, si vous me permettez le sarcasme. Et on va parler de ça un peu plus tard. Mais d'abord, quelques nouvelles, Mélina.
Oui, en fait, moi, j'ai appris cette semaine que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vous connaissez tous Barbie, la Barbie, en fait.
Mm-hmm. Ben, pas personnellement, mais...
pour la première fois, elle va être adaptée au cinéma dans un film avec des prises de vue réelles. Donc, le premier live-action movie. Donc, ce sera l'actrice australienne Margot Robbie qui va interpréter Barbie. Donc, on n'a pas plus de détails. On ne sait pas quand ça va sortir. On ne sait pas ça va être quoi l'histoire. On se souvient que Barbie a eu plusieurs carrières dans sa vie de Barbie. Donc, au-dessus de 200 carrières, on dit. Donc,
plus les mariages avec Ken.
Aussi, c'est ça.
Ça fait un méchant CV. Tu peux pas rentrer sur deux pages.
Ouais, probablement donc une série qui commence.
Une série de films, peut-être, je sais pas, où est-ce qu'elle va explorer ses différents métiers, peut-être, ou peut-être qu'on va juste la voir avec Ken, ou bon, on verra.
Peut-être ça va faire comme les Martines, tu sais, Barbie à la plage, Barbie, tous les métiers qu'elle a fait aussi.
Peut-être,
oui, ou comme Tintin, Barbie le temple du soleil.
Oui, tout à fait. On peut toutes les passer comme ça, ça va être même. Non, ça serait magique, ça.
Donc, à suivre les aventures de Barbie en prise de vue réelle au grand écran.
Bon, à suivre. Mmh. On va voir si la superficialité sera au rendez-vous. André-Jean.
Ben écoute, moi j'ai appris par mes contacts en France que le court-métrage québécois brillera de mille feux en France très prochainement. C'est donc c'est le Québec et par l'intermédiaire du Québec et du Canada. Les films de les courts-métrages finalement québécois vont être en vigueur dans le festival de court-métrage de Clermont-Ferrand. Ben j'ai un ami qui vient de là, donc j'ai pas eu le choix de passer sur la nouvelle. En fait, fondé en 1981, c'est pardonnez-moi, une des plus importantes manifestations consacrées au court-métrage depuis donc, sa fondation. Cette année, le festival a même battu des records. On parle de 9200 inscriptions de films venus de à travers le monde. C'est la 41e édition actuellement. Le festival propose donc une quarantaine de films québécois, avec des œuvres plus récentes, mais avec des œuvres aussi qui datent un peu plus, là, 97, 2010. Il y a des vieux films canadiens qui vont ressortir. Tous les films, bien sûr, ne sont pas en compétition. Mais on en a 4 Canadiens qui seront en compétition internationale, que je ne vous nommerai pas. Hein. Je vais vous dire d'aller vous rincer l'œil sur le fameux site du Festival du Cours de Clermont-Ferrand, finalement. Les organisateurs du festival ont même concocté 5 autres programmes qui mettront en valeur la diversité et la complexité du territoire canadien, ses racines historiques et culturelles. Donc, plusieurs œuvres autochtones seront aussi proposées. Hein. C'est quelque chose qui manque souvent, c'est-à-dire la vision... oui. touristique de l'Amérique, du français ou de l'européen qui vient ici. Bon, on sait qu'on a des Amérindiens en Amérique du Nord, mais on ne sait pas jusqu'à quel point ils ont arrêté ou à quelle date ils ont arrêté de se promener en canot d'écorce.
Oui, on a une petite déformation là, au niveau de la compréhension.
Donc, les gens de Clermont-Ferrand vont aider la population française à se remettre à jour de ce côté-là. Le festival du cours de Clermont-Ferrand se tiendra donc du 1er février au 9 février inclusivement. Et je vous invite à aller voir leur page sur Internet. Une forte programmation, comme je dis, là, cette année, ça prend une place phénoménale. Il y a beaucoup de plaisir à avoir, en fait.
Ben, écoute, c'est merveilleux. Gilles Vigneault sera peut-être présent parce que c'est le festival de Joe Montferrand, c'est ce que tu as dit?
Clermont-Ferrand, qui est une région, il ne faudrait quand même pas manquer de respect aux gens de cette. Parce que c'est.
Non, tout à fait.
Il y a des costauds là-dedans. Il y a une équipe de rugby à Clermont-Ferrand.
Oui, et le rugby, c'est intense.
Ben, c'est sérieux. Je dirais, il faut pas. Donc, bonjour à tous les joueurs de rugby de Clermont-Ferrand. On vous adore.
Oui.
Donc, c'est ça. Je vous invite à aller voir sur ce site-là. C'est très agréable. Donc, vous tapez simplement Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand et vous allez avoir la programmation. Je crois qu'il y a même accès à certains cours. Comme je dis, comme c'est pas que des compétitions, il y a aussi juste une série de présentations, tout simplement. Donc, ça va être très chargé au début février.
De quoi intéresser les gens du Kino Show. Tout ça est très intéressant. Merci, André-Jean, de réussir à nous parler de films québécois, même quand tu parles de festivals internationaux.
Eh bien, voilà.
C'est merveilleux. De mon côté, quelque chose de peut-être un peu plus léger, Pinocchio. Hein? On parle souvent de Disney qui refait donc, tous ses vieux classiques en real action, donc en prise de vue réelle. Le Mina, justement, a parlé d'un film récemment dont c'était le cas. Notamment, bon, on pense au Roi Lion, Dumbo qui s'en vient bientôt, Aladdin. Mais je vais vous parler de Pinocchio parce que la refonte du film de 1940 qu'on a annoncé dès 2015 avec la possibilité d'avoir Tom Hanks dans le rôle de Geppetto, la célèbre sauterelle. Le tournage devait commencer en 2018, mais le réalisateur Sam Mendes a quitté le projet en 2017. On a annoncé l'an dernier que Paul King, qui avait réalisé L'ours Paddington, devait prendre la relève, mais il semble que lui aussi, on vient d'apprendre qu'il avait quitté le projet de la bouche d'une tierce personne. Ça va pas trop bien pour Pinocchio, on va voir ce qui va se passer. Et je rappelle que c'est pas la première fois que ça se produit parce que chez Disney, notamment, il y a quelques... En fait, la dernière histoire de Star Wars, Solo, avait eu une problématique similaire. Ils s'en sont sortis pas si mal, mais on va voir ce qui va se passer de Pinocchio. Pour Pinocchio, ni Disney ni Paul King ne se sont adressés aux médias concernant l'avenir du film, peut-être parce que... Ils ont peut-être peur que leur nez s'allonge devant la caméra. Donc, moi, c'est ce que je me suis dit.
Beau jeu.
Peut-être que tout c'est un mensonge.
Ben voilà. On en saura plus sur Pinocchio, sans doute, au cours de l'année. Sinon, voici votre Cinébrunch! On est avec François Genet aujourd'hui parce que c'est le moment de parler du Kino Show. Kino Show qui s'en vient imminemment,
oui.
François.
C'est là, ça s'en vient, là. C'est le 23?
Oui, c'est imminent, c'est dans quelques jours.
C'est imminent, là, on arrive, là, on voit déjà là, les premières secondes du spectacle, tu vois. Je suis quasiment en train de le faire,
oui,
là,
oui.
De suite.
T'es en train de faire ton soundcheck.
Je suis quasiment en retard. Colin, je vais partir de suite. Ça s'en vient. Puis là, on a tout un spectacle, pour vrai, là, c'est fou. On dit ça à chaque fois, finalement, parce qu'on ne crée pas de spectacle pas le fun. T'sais, je veux dire, si on sait que le spectacle ne sera pas le fun, on se pointe même pas nous-mêmes. On le fait pas, tu comprends? On arrête avant.
On met un papier dans la porte.
C'est ça, exactement. On dit on est tous malades, puis on n'a pas ni à gastro. On a un bon show encore pour vous ce mois-ci. Fait que ça tombe bien. Un thème de fou, hein? Le thème, c'est animation.
Comme toi, l'animateur?
Oui, non, mais là, j'ai cru comprendre que c'était tout à fait moi. Moi, j'avais préparé un show de 2 heures juste de moi. Je partais de mon enfance. Là, c'était très freudien comme truc, mais c'était assez magique. Mais là, j'ai cru comprendre que c'est les films d'animation, là, comme ce qu'on peut voir.
Les animés.
Moi, je pensais animation en tout genre. Du genre, comme là, t'es venu animer à Cinébrunch, bien sûr.
Ouais. Mais lui aussi pensait ça, c'est ça qui est drôle.
Je pensais que c'était ça à la base. Fait que
il va peut-être avoir... stop motion. Des affaires funky.
Tout à fait. Mais en fait, quand on y pense, tout est de l'animation au final. Hein? Mais moins c'est animé, plus on appelle ça de l'animation. Là. En tout cas, c'est un peu bizarre. Parce qu'on s'entend. Non, mais c'est vrai que nous-mêmes, on bouge, tu sais. Mais là, quand tu prends quelque chose qui bouge pas puis tu le fais bouger, ça devient de l'animation. Tu comprends? C'est un peu bizarre. Mais non, mais c'est ça.
Ça ouvre vraiment les films à peu près n'importe quoi. Là.
Presque. Exactement. Là. Tu sais, tu mets une couple de photos puis t'es presque rendu là.
Tu fais bouger tes photos puis on est en affaires finalement.
Ben, exactement. C'est
c'est ça. Mais là, si t'en mets 24 de suite, dans la même seconde, Colin, t'es rendu avec du vidéo. Tu comprends? C'est subtil. Fait que, mais on a plein de trucs pour vrai. Tu sais, comme on a vécu avec l'animation quand on était jeune, hein? Tu sais, le Roi Lion, les films de Disney, les affaires comme ça. Fait que ça vient beaucoup nous chercher. Ça vient. Fait que je pense qu'on va revenir à quelque part de bien intéressant. Puis on s'en va à des endroits aussi vraiment différents. Hein, okay. Pas juste le Roi Lion, là. On s'en va ailleurs. L'animé, c'est pas juste ça.
Ouais, surtout que le nouveau Roi Lion, avec prise de vue réelle, a l'air beaucoup plus d'une animation qu'on pense. Mais
Il est tellement cute en plus.
Mais Nina est en amour avec le lion.
Un félin, ben voilà, un félin.
C'est sûr, hein, c'est
non,
sûr.
Mais allez le voir, il est vraiment bien réussi.
Ben, il est pas sorti surtout. Mais,
non, mais on le voit dans la bande-annonce. Ouais, on voit
est-ce qu'il va avoir la bande-annonce au Kino Show
Oui, ben il va avoir. On met toujours des bandes-annonces, mais peut-être pas celle-là.
Mais on parlait de plaisir. Est-ce que vous avez toujours. Parce que je me suis présenté là une fois, il y a eu une espèce de concours phénoménal, je pense, c'est le Kino Pardi qu'on appelle. Est-ce que ça va faire toujours partie de l'événement?
Ben, peut-être pas le Kino Pardi, il ne faut pas le faire à chaque fois, tu sais, parce que okay, sinon okay. Ça perd de son lustre.
Ah, voilà.
C'est ça, tout à fait. Puis là, on veut être éclairé, il faut avoir un lustre. Mais dans le sens où on va faire quelque chose, encore un jeu avec les gens, on va essayer d'avoir un jeu avec les gens, mais on ne dit pas encore c'est quoi. C'est un lien avec l'animation, avec le dessin, avec le fun aussi, parce que c'est toujours
c'est ce qui fait que c'est toujours des événements phénoménaux.
Ben oui. Exactement.
Kino, on est là pour avoir du plaisir.
Ben, c'est ça le but. C'est qu'on s'en va là, à Capsule, 19h30, on s'assoit, puis on écoute des courts-métrages, on a bien du fun ensemble. C'est ça le Kino Show. Puis arriver avant 19h30, hein, c'est toujours plus le fun avant.
Ah oui, sinon il y a interruption de l'animation, hein, bien sûr, mais là je ne fais pas référence à l'animation, le film, mais bien au... Ben, idéalement, si vous arrivez trop tard, vous allez arriver pendant un film,
exactement.
Ça va briser la concentration de tout le monde,
non, etc. C'est terrible.
Mais est-ce qu'on sait, c'est probablement que je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, avez-vous déjà votre programmation, un nombre de films projetés, etc., ou ça les gens ont encore jusqu'à la dernière minute pour se présenter?
On continue à en recevoir là, tout doucement, on est encore dans le moment intéressant où on continue à placer les films.
Oui, d'ailleurs, c'est les gens l'envoyer, oui. Ils peuvent encore pour une journée ou deux, je pense.
Tout à fait, exactement. Possible. Donc l'envoyer sur le courriel que j'ai pas en tête et qui doit se trouver sur notre page Facebook.
Je pense que c'est kinoestrie@gmail.com, je pense.
Ça, c'est toujours le fun de dire @ de toute façon dans un micro. Fait, moi, je dis, ça doit être le courriel gagnant.
Probablement.
Ben, voilà. La page courriel, c'est kinoestrie.
La page Facebook.
Facebook, pardon.
La page courriel, ça serait le fun d'avoir une page courriel comme un MySpace, mais à chaque fois que tu as un courriel. En tout cas, ça, c'est une petite idée qu'on lance dans l'univers. Mais c'est ça, oui, la page Facebook, c'est Kino Estrie. Et on s'en va là-dessus. Et il y a des conneries hein, de moi qui des fois.
Oui, il y a des petites vidéos intéressantes, humoristiques de toi pour annoncer le Kino. D'ailleurs, il y en a un sur le thème de l'animation que vous pouvez aller voir sur Facebook.
Tout à fait, c'est présent.
C'est très drôle. Je ne sais pas qui fait ça, mais c'est de très haute qualité.
On se demande c'est qui.
Vraiment. Hein, c'est...
Mais le mystère. Est-ce qu'on sait si le Nacho Man va être de retour?
On s'attend à ce que le Nacho Man soit de retour.
Donc des tirages possibles.
Donc des tirages, des prix, de la folie. Furieuse, ça va être magique.
Et peut-être l'apparition d'une Nacho Woman éventuellement, sait-on jamais.
Mais ça serait dommage le fun.
Ça serait fou. Ça serait fou. Là, écoute, non, mais on défonce des barrières à Kino.
Oui, et André-Jean, toi, t'es allé où au dernier Kino? J'ai eu vent
c'était à l'extérieur de mes heures de non-disponibilité, donc je me suis rincé l'œil allègrement. J'ai bien aimé l'ambiance, bien aimé l'endroit, de la manière que c'était... tu sais, je veux dire, c'est très éclectique au niveau de la salle, mais ça rend ça très agréable aussi. On sait pas trop à quoi s'attendre quand on y va. Au niveau du contenu, j'ai trouvé ça merveilleux parce que c'est d'une variété... c'est impossible que ça soit... On fait bien des blagues depuis tout à l'heure, là, mais c'est impossible que ce soit plate, parce qu'il y en a tellement de types. Par contre, il y a un moment où je me suis retrouvé, moi, personnellement, en conflit, c'est-à-dire que j'ai mal voté, selon moi. Après coup, là, moralement, je me disais, bon, il y a des choses que j'aurais peut-être dû considérer hors compétition, vu là, le financement de certains films, etc.
Ouais, parce qu'on a fait un petit vote à la fin pour savoir le coup de cœur du public.
Ouais.
Et là, c'est sûr qu'il y a des films qui avaient plus de budget que d'autres, donc c'est sûr que là, ça pouvait jouer. Mais on a changé un petit peu la formule cette fois-ci. Et au prochain Kino Show, justement, on va avoir un petit peu plus de gradation, pouvoir donner notre avis sur chacun des films. Ça va peut-être être plus intéressant aussi que juste donner un coup de cœur. Bref, comme ça, des fois, ça peut être un peu déchirant et on peut avoir des remords.
Ben oui, c'est ça. Oui, ben moi, je regarde, je ne dors plus depuis.
Des fois, le lendemain, à travailler, des c'est fois, ça. On peut... Oui. Ben là, il est trop tard pareil pour le lendemain, mais...
Non, mais tu sais, j'aurais pu... c'est ça, je m'étais dit après ça, j'aurais dû dire, bon, OK, ça, c'est clairement hors compétition, puis voter pour les autres parce que mon deuxième choix était plus dans un barème où... qui était de justement où je voyais que tout le monde avait fait le même effort, même si ça n'a pas tout le temps été tout tourné dans le même
espace-temporel, là. Il y avait des films qui étaient plus de, qui dataient plus, etc. Mais c'était toujours plus de sensiblement de même budget, sauf le dernier que j'ai beaucoup apprécié aussi, là. Mais en tout cas, c'est ça. C'est ça. Je vis avec le remords depuis. Je pense aux auteurs du deuxième film que j'adorais. Je me tords le soir.
Il avait un très bon. C'est un genre de documentaire sur un travailleur qui travaille dans une usine de biscuits.
C'était plutôt intéressant.
Effectivement. L'expérience était super.
Tout à fait, le box-office de ton cœur est déchiré. Là.
Oui, ben c'est ça. Je voulais pas blesser personne. J'espère que c'est. Finalement, après ça, je suis parti. Je me suis dit, j'espère qu'on n'a jamais dévoilé les votes à personne.
Parce que non, mais pas sur une base individuelle.
Non, exactement. Tout ça est anonyme.
Alors,
on va dire
dormir.
Pour qui tu as voté. Non,
évidemment, je vais pouvoir dormir. C'est merveilleux. Je vous remercie.
Exactement. Non, mais on a la sécurité des Oscars, nous autres. Il y a quelqu'un qui est attaché avec la mallette, avec tous les votes dedans, puis c'est comptabilisé par. Par quelqu'un, là, un aveugle, je pense. Oui,
Pour qu'il n'y ait pas de...
Oui, voilà. On garde l'anonymat.
Excellent. Merci beaucoup, François Genet. On va donc aller voir le Kino Show le 23 janvier. Et tu nous as dit que les portes ouvraient vers 19h?
Oui, 19h. Ouais, 18h30, même si vous voulez être un peu précoce.
Parfait.
Là,
puis le spectacle commence vers 7h30 et ça va être tout un show par un animateur hors pair sur le thème de l'animation. Merci beaucoup, François.
Merci.
Mais tu restes avec nous de toute façon.
Ben oui.
Bon, à tout de suite. On continue cette émission de Cinébrunch cette semaine. Je suis en compagnie toujours d'André Jarouleau, Mélina Lopez-Nadeau et notre invité et collaborateur François Genet qui nous a parlé il y a quelques minutes du Kino Show. Si vous avez manqué cette information, juste à vous rendre sur notre site web, donc cinébrunch.com pour en écouter les nuances. Sinon, moi je vais vous parler d'un film que j'ai été voir cette semaine, un film un petit peu plus rough que ce qui va vous être présenté dans le reste de l'émission, j'en ai l'impression. Le film s'appelle Les Filles du Soleil, c'est une production franco-belge réalisée par Eva Hossen, qui met en vedette Goldshifteh Farhani et Emmanuel Berko. Le film se passe dans la zone de l'Irak qu'on appelle le Kurdistan irakien pendant la Seconde Guerre civile, alors que les hommes en noir, donc des troupes djihadistes de l'État islamique, attaquent les populations yézidis. C'est un drame de guerre porté par des femmes. On écoute la bande-annonce.
T'as fait quoi comme étude? J'étais avocate.
Ça te manque?
C'est pas ce qui me manque.
Comment t'en es venue à t'engager?
C'était ma seule chance de retrouver mon fils.
Donc, évidemment, très visuel comme bande-annonce, ça fait partie de la chose. Très rough, honnêtement, ce film-là. Donc, on est vraiment dans une ambiance de guerre. Une production donc franco-belge, comme je vous l'ai dit. Le film s'appelle « Les filles du soleil » et on suit une journaliste et photographe de guerre française qui, elle, suit les combattantes yézidis dans leur offensive pour se libérer des troupes djihadistes. Ce film-là raconte beaucoup de choses, mais surtout nous rend témoin du drame des familles yézidis en Irak pendant les massacres de Sinjar, donc dans le nord de l'Irak. Parmi les combattantes, on suit principalement Bahar, interprétée par Goldshifteh Farhani, qui commande un petit groupe principalement constitué de femmes qui ont pris les armes, donc des civils qui ont pris les armes après avoir tout perdu ce qu'elles avaient, tout ce qu'elles avaient. Et sous forme de flashback, on va découvrir le parcours de Bachar. On découvre comment son mari a été fusillé, comme presque tous les hommes de son quartier en sortant de chez lui. Comment elle et sa sœur ont été faites prisonnières sexuelles avant de s'enfuir. Et on découvre que la quête de Bachar, c'est aussi de retrouver son jeune fils qui a été kidnappé pour être entraîné comme enfant soldat. Donc, des choses particulièrement pas réjouissantes dans ce film-là. C'est, cela dit, un magnifique témoignage de ce qu'est être une femme pendant une guerre sanglante comme celle-là contre des combattants kamikazes qui n'ont absolument rien à perdre. Il y a de la tactique, il y a du risque, beaucoup de victimes et seul l'espoir pour les pousser à continuer leur quête. C'est vraiment intense comme film. C'est pas pour tout le monde non plus. Il faut avoir le cœur relativement solide, surtout moralement, parce que c'est vraiment très rough. On voit des choses assez horribles, mais on en devine encore plus. Et c'est ça qui est le charme du film, si on peut dire ça comme ça. Au niveau plus critique, au début, j'aimais pas trop la façon dont les flashbacks étaient réalisés. Je trouvais que ça faisait un petit peu trop didactique, mais on s'habitue rapidement. Puis comme l'intensité va augmenter exponentiellement dans ce film-là, ben ça se trouve à finalement quasiment faire du bien un peu d'avoir cette zone de légèreté-là, qui n'est pas nécessairement légère, disons-le. Sinon, ben, autre point négatif, je dirais que c'est le rythme que j'ai trouvé un peu inégal, mais ça demeure correct dans la deuxième partie du film. Aussi, on prend beaucoup le point de vue de la journaliste, on apprend tranquillement à la connaître, mais après un certain temps, ça s'arrête là, et j'en aurais pris un peu plus, j'aurais aimé comprendre un peu plus comment elle pense, j'aurais aimé savoir plus sur son passé, on en sait un peu, mais je trouve que ça aurait été intéressant d'en avoir un peu plus pour sentir cette union-là entre les deux femmes, donc Bahar et elle. Mais honnêtement, c'est un très bon film, ça m'a fait un peu penser au film Une famille syrienne, moins claustrophobique, mais plus grandiose, plus grand. Donc voilà, je donne 8.5 sur 10 à ce film-là, Les filles du soleil, c'est un très bon film, pas pour tout le monde par contre, mais voilà, c'est ça.
Merci beaucoup, Jim. Ouais, on rentre aisément dans la façon que c'est tourné, les plans, la trame sonore, etc. On rentre bien dans la famille puis dans le malaise? Ou...
Oui, ben c'est que ça se promène beaucoup. Hein. Ça se déplace beaucoup, autant dans le passé que dans le présent. On reste pas statique dans ce film-là, okay. Contrairement à d'autres films de ce genre-là. Et je pense que ça, c'était tout un contrat à faire.
Puis le fil se tient quand même
le
très bien.
Le fil se tient bien, okay. mais bon, au niveau rythmique, au début, des longs moments d'attente, peut-être un peu inutiles, qui okay. après sont débalancés par des moments beaucoup plus d'action. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, on en parlera sûrement avec le film de 2009 plus tard, mais tu sais, des fois...
L'effet de malaise est là, parce que je t'ai vu revenir.
Ah non, c'est pas fait pour nous faire sentir bien, là, ça
okay.
c'est certain.
OK, OK. Ouais.
Et voilà.
Ben merci beaucoup à toi.
Ben de rien. André-Jean, t'as été voir un film de cuisine.
Oui, effectivement. Non, en fait, je me fais des blagues, bien sûr, mais je suis allé voir pour vous, bien sûr, et pour vous tous, hein, vous, mes animateurs, tristeuses, et bien sûr, toute notre auditoire, Les vieux fourneaux, qui est sorti donc en 2018, plus précisément ici à Sherbrooke, au cinéma, à la Maison du cinéma, le 4 janvier, qui est bien évidemment une comédie des opulentes françaises. Donc, on peut s'attendre à toutes sortes de choses, de ces, le terme hein, comédie des opulentes françaises le dit, on peut passer du rire aux pleurs, réalisé par Christophe Duturon. Donc, acteur, scénariste et réalisateur français, connu, entre autres, en fait, pour Le Bonheur de Pierre en 2009. Et peut-être certains se rappelleront de Brise de Nice. Donc, lui, il a fait la version 3. Avec,
il n'y a pas eu de 2.
Monsieur Dujardin, bien sûr. Brise 3 en 2016. Comme acteur, bien, on a Pierre Richard. C'est tous une joyeuse brochette de français-française. Donc, Pierre Richard, Eddie Mitchell, Roland Giraud, Alice Paul, Henri Guibet et Myriam Boyer. Donc, une joyeuse brochette, là, je dois vous avouer, qui sont pas tous... En fait, qui vont bien dans le thème, vous allez voir, hein, parce que vieux fourneau, certains se rappelleront peut-être à quoi ça fait référence, mais on va tout de suite aller voir la bande-annonce, ça va aller plus loin.
Vous partez au week-end, monsieur Mimille?
Je vais à l'enterrement.
Et de qui donc?
Le mien, j'en ai bien peur.
Antoine! Qu'est-ce que tu fous?
Je dois faire un petit voyage.
Putain, mais qu'est-ce qu'il y prend?
J'ai comme une vague idée.
C'est la seule où tout le monde savait déjà que ma femme couchait avec Garant Servier.
Tes amis me disent que t'es parti avec une arme.
Ben, c'est-à-dire que j'aurais préféré le tuer à coups de pied. Mais avec mon arthrite...
On commet pas un crime passionnel 50 ans après les faits.
Alors pardon, mais je pars pas je sais pas où pour balancer des tourneaux à je sais pas qui avec deux vieux.
Ça va chier! Attends, Antoine, je fais une photo. Je la tweet.
Il a pas un twister. C'est un mot qu'il emploie parce qu'il a lu dans la presse.
Ça a l'air vraiment très drôle.
Ça se veut aussi. Hein? Donc, je vous envoie le synopsis un peu. Pierre, Mimille et Antoine, trois amis d'enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir. Ils sont bien déterminés à le faire avec style, bien sûr. Leur retrouvaille à l'occasion des obsèques de Lucette, la femme d'Antoine, sont de courte durée. Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natale vers la Toscane, en fait. Pierrot, Mimille et Sophie, la petite fille d'Antoine, enceinte jusqu'aux dents, se lance alors à sa poursuite pour l'empêcher de commettre un crime passionnel 50 ans plus tard. Je vous dirais, donc, pour ceux qui ne savaient pas, hein, à la base, c'est important de se mettre dans le contexte, il s'agit d'une bande dessinée, en fait, c'est inspiré d'une bande dessinée franco-belge qui s'appelle Les Vieux Fourneaux, hein, exactement, scénarisé par Wilfried Lupano et dessiné par Paul Cahuet. De 2014 à 2018. En fait, il y en a 4 tomes actuellement et on voit les mêmes personnages évoluer dans un contexte, bien sûr, papier, couleur.
Intéressant, non? Ça t'a sûrement donné envie de...
Ben moi-même, je dois avouer que j'ai pas eu le temps d'aller voir ça, mais j'ai pas le choix d'être curieux. D'après moi, on est dans la BD pour adultes aisément. C'est pour ça qu'on n'en a jamais parlé, d'après moi, comme Astérix et Obélix et Tintin, donc, comme tu parlais un peu plus tôt. Mais
est-ce que c'est la même histoire qu'un des livres? Ou c'est,
en fait, c'est inspiré de... Je pense qu'ils doivent fusionner. J'ai pas lu les BD, donc je sais pas exactement, mais d'après moi, ils fusionnent un petit peu le tout. Je sais pas si le film résume les 4 BD une seule ou etc. Je sais pas, mais je sais que les personnages sont sensiblement les mêmes. En fait, les trois là, protagonistes, là, Pierrot, Mimille et Antoine, qui sont des espèces d'anciens révolutionnaires. C'est un peu le topo va. C'est facile de rentrer dans le concept parce que ici, hein, on se le fait souvent dire, on est comme un peu les Français au niveau de la Révolution, notre contestation de l'autorité, etc. On est un peu comme les Français de l'Amérique du Nord. C'est donc, pour moi, ça va être facile pour bien des gens d'embarquer dans le contexte. Je vous dirais que j'ai trouvé que le développement est assez rapide, même si... Et on arrive tout de même, c'est-à-dire à s'attacher au personnage. Il y a une intrigue après ça, suivie de rebondissements, tu sais, comme vous disiez, même dans la bande-annonce, on comprend bien, ça se veut très comique, très... Je dirais pas loufoque, mais... Entre autres, plein de rebondissements qui nous permettent de passer d'un gag à l'autre assez rapidement. Une trame sonore qui appuie bien les situations cocasses comme les situations dramatiques. Enrichie par quelques animations aussi qui nous propulsent dans le passé des personnages, souvent là où ça va devenir plus lourd, où les thèmes plus tristes vont être abordés. Le jeu d'acteur à la hauteur de la réputation de la brochette dont je parlais tout à l'heure. Hein, son nom m'échappe, là, mais Pierre Richard, qui est simplement merveilleux, en fait. Une sensibilité prenante qui touchera sans doute une clientèle plus adulte. J'entends par là que si on aborde des thèmes assez lourds, hein, comme la vieillesse, les remords, l'entêtement, la sénilité, bien sûr, l'amour. Tous ces thèmes-là, c'est ça. Les adultes vont plus rapidement s'accrocher dans le truc parce que ça prend du vécu, selon moi, pour apprécier ce film-là un peu. Cela dit, la manière que c'est monté et que ça coule, c'est d'une merveille. À mon point de vue, ça mérite aisément un 9 sur 10. Je voulais pas me laisser aller trop loin non plus, mais...
quand même, c'est bien.
Donc, j'ai beaucoup apprécié. La finale est surprenante et d'une sensibilité absolument phénoménale, en fait, je dois avouer. Là, souhaite... Okay. Non, mais si vous voulez vous détendre, mais en ayant quand même une réflexion à avoir. Moi, je suis allé dans l'après-midi, j'étais seul avec un autre vieux fourneau dans le fond du
mais c'est ça, j'allais
de la
me
salle.
Demander quel genre d'auditoire était là. Vous étiez deux, là.
Oui, mais là, je suis allé sur l'heure du dîner, je crois. Écoute, c'était normal que la scène soit vide, que la salle soit vide. C'était en pleine semaine sur l'heure du dîner. T'sais, c'était pas le moment pour aller voir le cinéma, mais bon, comme on a notre réputation à la Maison du cinéma, hein. On ouvre les salles pour nous.
Voilà.
Il y a un monsieur qui passait par là qui a dit « Ah, je vais peut-être pouvoir en profiter ». Mais on avait pas mal... Bon, il y aurait peut-être... il était peut-être un petit peu plus vieux fourneau que moi. Castantienne, ça a été... ça a été agréable. Je l'ai entendu éclater de rire à quelques reprises. Puis moi-même, j'étais pas capable à certains moments, je ne pouvais faire autrement que d'éclater.
Okay, c'est bien.
Donc, je le conseille à tout le monde. Comme je vous dis, 9 sur 10, c'est un aller-voir. Si vous avez le goût de vous détendre, là, puis d'aller voir un film un peu plus léger, peut-être que comme le
ben
film
oui,
de Jim.
Ben oui,
si on veut.
Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Plus léger que le mien, oui, c'est ça. Effectivement. Merci beaucoup, André-Jean.
Un plaisir.
De retour à Cinébrunch et dans quelques minutes, André-Jean va nous divertir, va nous parler du cinéma américain et va même nous faire jouer, peut-être, qui sait, à un jeu. Mais juste avant, Mélina, tu as été voir un film Netflix cette semaine. En fait, tu as vu un film Netflix, tu t'es pas déplacée, j'imagine?
Non, je l'ai regardé dans le confort de chez moi. Donc, le film Netflix s'appelle Roma. C'est le film d'Alfonso Cuarón, donc réalisateur mexicain de 57 ans, qui a fait, entre autres, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Faut que je le dise. Donc,
c'était sûr qu'elle allait avoir un lien. Là.
Non, mais quand même. Ce film-là a gagné 2 Golden Globes la semaine dernière, donc le meilleur film en langue étrangère et le meilleur réalisateur, donc pour M. Cuarón. Et c'est ça, comme tu le disais, Jim, c'est un film qui a été distribué par Netflix. Et il s'est inspiré de ses propres souvenirs d'enfance pour écrire le scénario du film. Donc, on va aller écouter la bande-annonce.
Not yourself.
Donc, c'était la bande-annonce du film Roma. Donc, une bande-annonce qui est très musicale, si on veut. Donc, je vais vous raconter un peu l'histoire, le contexte dans lequel ça se situe. Donc, ça se passe au Mexique dans les années 70, donc dans une famille mexicaine. Et on suit l'histoire de Cléo qui travaille comme employée domestique. Elle vit sur place avec une autre employée qui s'appelle Adela. Et il faut savoir que c'est très courant, même encore aujourd'hui en Amérique latine, d'avoir une bonne, d'avoir une employée domestique. Et c'est pas seulement réservé aux familles très, très riches, mais les familles de classe moyenne en ont également une. Et c'est quand même assez fréquent qu'elles vivent sur place. Donc, les gens peuvent beaucoup se retrouver dans ces situations-là. Cléo, elle, est d'origine mixtèque, donc c'est un peuple amérindien du Mexique. Donc, avec Adela, elle parle parfois en mixtèque ou d'autres fois en espagnol durant le film. On voit également la famille, en fait, pour laquelle elle travaille, qui est celle de Sofia et de ses quatre enfants. Et il y a son mari et il y a également sa mère à elle. Son mari est très peu présent durant le film. On va le voir un peu, mais il va s'en aller assez rapidement. On va voir plusieurs scènes de la vie quotidienne et le réalisateur donc va utiliser des moments très subtils, des détails, des moments du quotidien pour passer son message. Et son message, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on veut montrer dans ce film-là? On veut montrer les inégalités sociales qui vont exister et qui existent encore aujourd'hui entre les employés domestiques et l'employeur. Donc, une immense proximité. Mais en même temps, les employés domestiques travaillent tout le temps, en fait. Ils se lèvent avant tout le monde, ils se couchent après tout le monde. Et c'est un des emplois qui est très peu payé, qui a beaucoup, beaucoup de nombre d'heures et très peu de congés. Mais souvent, ces inégalités-là sociales vont être considérées comme normales par tous les gens qui sont impliqués là-dedans. Donc, c'est ce qu'on cherche à montrer, mais de façon très délicate, avec plein de petits détails, sans vouloir trop déranger. Donc, c'est un film qui est vraiment en douceur. Et donc, en racontant l'histoire de Cléo, on va décrire la réalité de milliers de femmes. Réalité qui a rarement été montrée au cinéma et ça rend ça très intéressant. Et là, j'ai juste envie de vous faire une petite parenthèse parce que quand on regarde un film, en fait, on cherche tous à s'identifier avec les personnages. Ça fait même partie de nos critères qu'on va utiliser, moi, Jim, André, Jean, lorsqu'on critique un film, l'identification au personnage. Donc... C'est un film qui va raconter une histoire à laquelle de nombreuses femmes ont pu s'identifier, tout en montrant une réalité qui est rarement montrée au cinéma, donc ces femmes-là ne peuvent pas souvent s'identifier à ces personnages-là. Donc pour moi, c'est vraiment ça le gros succès du film. C'est aussi un film qui laisse énormément de place à la femme. On voit que très brièvement le mari. Une autre personne qu'on voit assez fréquemment dans le film, c'est la docteure, donc une autre femme également. Donc, vraiment un film qui est porté par des femmes, qui permet aux femmes de s'identifier aux personnages, qui permet, en fait, comme je disais, puis c'est vraiment important, je pense que c'est vraiment ça la force du film, c'est que ça donne une super belle place. Vraiment, on réussit à montrer une réalité qui est trop peu souvent montrée au cinéma, et ça, c'est vraiment un point positif. C'est sûr que c'est un film très contemplatif. Donc, on montre des scènes du quotidien, c'est des longs plans, c'est en noir et blanc, ça n'a pas un rythme rapide. Donc, c'est vraiment pas un film qui est fait pour tout le monde. Il faut avoir ça en tête avant de commencer à regarder le film. Mais ça représente extrêmement bien la réalité, c'est extrêmement crédible. Et comme je disais au début, en fait, c'est basé sur l'enfance de l'auteur et réalisateur du film. Donc, le personnage que Cléo interprète est basé sur une vraie dame, en fait, que lui surnomme Lupo. Et c'est elle, dans le fond, qui était l'employée domestique de la famille Cuarón lorsqu'il était jeune. Et donc, cette dame-là, en fait, la vraie, si on veut, elle l'a accompagnée à plusieurs événements promotionnels liés au film. Donc ça, je trouve ça très positif. Donc moi, j'ai personnellement beaucoup aimé le film, mais c'est sûr qu'il faut avoir tout ça en tête. C'est peut-être une réalité à laquelle on est moins familier avec au Québec. C'est sûr que moi, de par mes origines latines, il y a plusieurs choses qui rentraient dans mes références culturelles. Donc c'est un film qui m'a beaucoup marquée. Mais c'est sûr que je l'ai écouté avec Jim, et Jim, Jim, c'est un film qui l'a beaucoup ennuyé, on pourrait dire ça comme ça. Mais c'est que les références, il les a pas nécessairement pour intégrer le film.
Il y avait la barrière de la langue aussi, là. Le sous-titrage, parfois, demande une certaine, disons, concentration supplémentaire. Ouais. Mais effectivement, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi à m'identifier là, à la domestique. Là.
C'est ça. Mais sinon, c'est ça, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je comprends pourquoi il est primé. C'est un film qui laisse vraiment beaucoup la place aux femmes et on va aborder certains sujets de façon très délicate. Donc, c'est vraiment un beau film, tout en douceur. Moi, je vais donner à ce film-là la note de 8 sur 10. Donc, voilà, le film Roma, disponible sur Netflix.
Moi, j'étais curieux de savoir comment on dépeint, parce que les hommes sont pas très présents, mais l'homme est dépeint comment? Est-ce que c'est positif, négatif comme image? Il disparaît rapidement, pour quelle raison?
En fait, oui, on peut dire que on met pas tant l'accent là-dessus. Il va juste, à un moment donné, partir, on va dire qu'il part en fait au Québec en voyage d'affaires, qu'il fait des recherches là-bas. Mais finalement, on comprend dans le film qu'il est simplement parti avec une autre femme ailleurs. Okay. Mais on n'aborde vraiment pas ça. L'accent est vraiment pas mis là-dessus.
C'est pas ça le thème, mais je voulais juste... J'étais curieux, ça. Simplement. Puis, selon toi, est-ce qu'il mérite, ce film-là mérite quand même les deux prix qu'il a gagnés récemment?
Définitivement, c'est sûr que j'ai pas regardé énormément de cinéma international cette année, donc c'est dur de voir un peu avec quoi il est en compétition, c'est sûr. Mais au niveau de la réalisation, je pense que c'est vraiment un travail de fond qui a été fait pour démontrer ça. Je pense que la forme du film réussit très bien à faire des liens avec son contenu, donc ce qu'on veut prouver, tout ça, ce qu'on veut montrer, c'est aussi dans la forme, comment c'est filmé, comment c'est délicat, c'est des longs plans, donc voilà. Au niveau de la réalisation, vraiment, en tout cas, je trouve que c'est très, très bien réalisé. C'est différent. Là, tu vas nous parler du cinéma américain, c'est super intéressant parce que on est vraiment à l'opposé. C'est complètement à l'opposé. Donc, c'est sûr que pour un œil qui est habitué au cinéma américain, pour un cerveau qui est habitué à processer du cinéma américain, ça peut des fois peut-être moins attirer l'attention parce qu'il y a moins ces concepts-là. Donc, à telle minute, il va se passer telle action parce qu'on veut... donc, c'est sûr que c'est...
Tu y vas avec un esprit préparé, comme tu dis, des longs plans, un côté délicat, une attention portée sur les détails, etc.
Oui, définitivement.
Ben, merci.
Merci, Mélina. C'est maintenant le moment où André-Jean prend le micro et dirige cette portion d'émission et nous propose de nous parler donc des films américains, mais je ne sais pas de quelle façon tu vas procéder, c'est mystérieux là, ton affaire.
Oui, je ne voulais pas vous donner trop de détails parce que je ne veux pas que vous attendiez aux choses. Mon but, c'était de faire un peu un historique. Je me suis demandé, parce que on l'a vu, là, Mélina a fait référence à ça tout à l'heure un peu plus tôt, le principe que le cinéma international ne réfère pas toujours au cinéma américain, que le cinéma américain, selon moi, a envahi le monde à une certaine époque. J'étais curieux. Je me suis dit, pourquoi pas? Je suis allé lire un peu. Puis je fais ça en toute humilité. Là, s'il y a des gens de l'histoire qui trouvent que je raconte des conneries historiques, j'apprécierais qu'ils prennent contact avec nous via notre page Facebook, entre autres, pour nous dire corriger des faits peut-être, ou etc. Chose certaine, j'ai décidé de vous en faire 3 blocs et ça commence comme suit. Donc, on revient à l'initial. C'est-à-dire que c'est bien sûr Thomas Edison, comme je vous dis, on revient à la base de la base, qui a, pour la première fois en 1891, et son bras droit, franco-britannique William Kennedy Laurie Dixon, termine la mise au point de la première caméra qu'ils vont appeler le kinétographe. Et ils inventent le fameux format 35 mm à partir de rubans souples, transparents et lisses, sans perforation toutefois, à base de nitrate de cellulose. Commercialisé bien sûr par George Eastman et encore utilisé aujourd'hui. Donc on est pratiquement là, on n'est pas pratiquement 1891, 2019.
110 ans.
Ça commence à faire du temps, 120 ans pratiquement. Écoute, on est là, même mais pas pratiquement plus que 120 ans. En fait, Edison fit accomplir au cinéma une étape décisive en créant le film moderne 35 mm à 4 paires de perforations par image. L'équipe d'Edison veut aller plus loin même à cette époque-là et cherche à comment enregistrer en même temps le son d'une scène. Et malheureusement, elle va échouer piètrement dans, dans cette tentative, finalement. Petite question pour vous tous. On est en 1893 à 1895. Qui est le premier réalisateur? D'ailleurs, dont je vais vous donner un indice, là, son focus était particulièrement... Le seul souci, en fait, qu'il y avait, c'était de conserver les prestations de gens du spectacle, des acrobates, des athlètes, des tireurs d'élite, des danseurs, danseuses, etc. Pouvez-vous me nommer son nom?
On est dans quel pays, là?
On est en Europe, là. On parle de 1891. Non, mais vous allez voir que les pays, ça se confond assez rapidement, mais on est toujours en Europe pour le moment.
OK. Ben, moi, je dirais aussi Méliès, mais...
Et c'est un échec total. Il s'agit de Dixon, en fait. Ça brûlait les lèvres de François. Il s'est retenu.
C'est ça, je me suis retenu, mais c'est ça qui sortait pas, là.
Eh bien, non, c'est ça. Dixon, en fait, qui est le partenaire... En fait, c'est un... Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le partenaire franco-britannique Edison.
D'accord.
Donc, c'est le premier qui a dit ben, « moi, je vais me faire plaisir ». Puis en fait, j'imagine qu'il cherchait peut-être un thème au début, donc il prenait des performances. On a tous vu là, des équilibristes traverser des rues, etc. C'était le genre de bonhomme qui... en fait, c'était le genre de prestation qu'il voulait conserver. Ces films, en fait, vont être accessibles au public à l'aide du kinétoscope, des machines de visionnement individuelles qui vont être regroupées dans ce qu'on va appeler les kinétoscope parlor à l'époque. Hein? Donc, des espèces d'arcades dans lesquelles on va aller mettre nos yeux parce que c'est des machines individuelles. Mmh. Boutique très achalandée où l'on vient en payant les droits d'entrée. On écoute de la musique diffusée par les phonographes, inventée plus tôt par Edison encore. Et on vient voir donc les films en se pensant sur un œilleton d'une batterie de kinétoscope, en fait, l'appareil dans lequel on va pouvoir faire circuler les fameuses bandes sans cran.
On pourrait faire un lien avec la réalité virtuelle aujourd'hui. Maintenant, on peut aller dans des endroits, on met un casque et on voit des trucs en VR, donc c'est un peu le même concept.
Donc, où serons-nous dans quelques temps, probablement, dans le 3D holographique, ouais. etc. Pour l'instant, c'est vrai, c'est un beau parallèle à faire. Alors, en fait, les projections sur grand écran sont venues d'Europe avec le théâtre optique Émile Reynaud en 1892. On l'appelle le cinématographe. En fait, les frères Lumière aussi en 1895, qui ont aussi bien, c'est-à-dire aux États-Unis pour eux, et celle de Woodville Latham et son fameux l'idoloscope. c'est des mots qui sont très, très simples à prononcer. Développé en 1895 aussi par Eugène Lost, sous la direction du fameux Dixon. Fait que Dixon et Edison restent très près tout au long de ce développement technique-là. Ça provoque en fait l'arrêt de l'exploitation des kinétoscopes, le fait qu'on projette maintenant en salle, mais les films prévus pour ces machines seront alors projetés sans difficulté. Donc là, je crois que l'invention d'Edison, les quatre doubles perforations viennent d'apparaître. Donc, c'est au début du 20e siècle, tandis que l'industrie cinématographique n'en est encore pas une. La plupart de ceux qui se lancent dans le cinéma aux États-Unis sont des immigrants. Donc là, j'arrive en Amérique, en fait, dont sont des immigrants pauvres, hein, ceux qui débutent là-dedans, et plus particulièrement des immigrants juifs venus de Russie, d'Allemagne ou d'Autriche-Hongrie. Et là, j'ai une petite question. À l'époque, il y a déjà trois firmes qu'on appelle les majeurs,
oui,
qui existent. Pouvez-vous me les nommer? Il en reste encore deux de celles-là aujourd'hui.
Paramount?
Malheureusement.
Non.
Non, ça, c'est dur de ce côté-là parce que
quand même, oui.
J'aurais dû faire un choix de réponse de ce côté-là aussi. Tout le monde, je pense, se rappelle de 20th Century Fox, Warner Bros. Studio, qui existe toujours aussi aujourd'hui, et la dernière qui n'existe plus, en fait, qui s'appelle MGM, ou qui s'appelait MGM à la base, donc Metro-Goldwyn-Mayer, effectivement.
Ça, c'était pas anglais, ça, MGM?
À la base, oui. En fait, le nom, c'est plusieurs associés. C'est le nom des associés, en fait. En 1971, voyez-vous, MGM existait toujours, mais annonçait qu'il y avait avait fusionné avec 20th Century Fox. Et finalement, pendant 39 ans après, cette fusion-là n'a jamais eu lieu, mais ça a été vendu, racheté par un paquet de gens.
On voit encore le lion de temps en temps. Là,
oui, ben c'est que justement, en fait, le 3 novembre 2010, ça l'a officiellement déclaré faillite. Le 20 décembre 2010, donc même un peu plus d'un mois après, ça a été repris par des gens qui étaient des directeurs ou des co-directeurs de d'autres associations. Et depuis 2017, en fait, ça ne fait MGM... ne fait que des collaborations, en fait, actuellement, des coproductions avec Sony, Paramount, entre autres, et Warner Brothers, bien sûr. En fait, c'est donc, je reviens un peu dans le temps, on est au début du 20e, naissent ainsi les sociétés qui vont chacune s'illustrer dans la production de chefs-d'œuvre au niveau du cinéma. Comme on dit, donc, c'est William Fox qui va fonder en 1915 le film Fox Film Corporation, qui deviendra 20th Century Fox. Samuel Goldfish, qui va changer son nom pour Samuel Goldwyn, et fonder en 1916 Goldwyn Picture Corporation, qui deviendra MGM. Les frères Warner, qui fondent, qui eux vont fonder en 1923 Warner Bros. Studios. Ces immigrés ne sont pas des lettrés, ce qui est assez intéressant. Okay, on parlait de gens pauvres tout à l'heure.
Alors, tu es en train de me dire que ces gens-là, Fox, les Brothers...
C'est tous des illettrés,
c'était
en fait.
Des gens qui ne...
Okay. C'est des pauvres illettrés venant de Russie, d'Allemagne et d'Autriche. Ces gens-là vont écrire... pour eux, écrire une histoire... Bien, à cette époque-là aussi, écrire, c'est pas donné à tout le monde encore. Donc, ce dont on peut s'apercevoir dès les débuts du cinéma aux États-Unis, c'est que les producteurs vont avoir un rôle, malgré le fait qu'ils sont pas auteurs ou qui ne vont pas écrire eux-mêmes, vont avoir un rôle qui va bien au-delà de l'aspect, de l'aspect purement financier. Ils vont participer à la création du film au même titre, en fait, que les réalisateurs, que les scénaristes, ce qui est difficile à concevoir aujourd'hui, on va se le dire. Donc, au cours des années 1910, plus particulièrement, Hollywood devient le principal centre de production de la nouvelle industrie cinématographique. Une légende veut même que les producteurs aient quitté la côte Est pour Hollywood, enfin, afin d'échapper aux représentants du Trust Edison. Mais des détectives privés payés par Edison peuvent tout aussi bien débarquer sur les studios de tournage d'Hollywood pour vérifier que les équipes utilisent la pellicule Eastman, là, dont on parlait, monopole de la Motion Picture Patent Company, groupement de puissants intérêts, dont ceux du créateur là, de technologique Edison lui-même. Je m'excuse, c'est un peu chargé comme thème, mais c'est... C'est ça. Tout s'est pas super bien passé du côté de la côte Est. Donc, on débarque à Hollywood, sur la côte Ouest, finalement. Et là, les lieux de tournage ressemblent beaucoup plus à des campements que de véritables studios. W. Griffith s'installe sa compagnie, la Biographe, dès 1910 dans le quartier d'Hollywood à Los Angeles. Il y réalise Naissance d'une nation en 1915, un film qui rapporte 10 millions de dollars. En 1912, Max Sennett y fonde sur un terrain vague le studio Keystone, qui devient le principal foyer du cinéma burlesque. C'est au milieu des années 10, juste un peu avant la guerre ou durant les débuts, que naissent les premières grandes stars du cinéma américain, Douglas Fairbank, Florence Lawrence, Florence Turner, Mary Pickford et le fameux, et non le moindre, Charlie Chaplin. Oui. Les acteurs étant jusque-là des personnes anonymes, on était encore dans le muet, bien sûr. En 1917, avec le développement des budgets, décors, figurants, costumes et des stars pour fidéliser le public, là, la star devient la personne qui va faire qu'on va aller le voir, le film. Mm-hmm. Les studios ont recours au financement extérieur des particuliers et des banques, dont le prêt est sur gage sur les actifs, en fait. Les prêts sur gage sont sur les actifs qui sont devenus les stars, les scénarios et les réalisateurs. Donc,
sur le sujet du film, là, on est rendu ailleurs.
Ah, on est rendu sur on parie, en fait. On parie pour pouvoir avoir le financement, pour pouvoir faire venir l'acteur, qui va donc on parie qu'il va attirer telle clientèle, et ça nous permet de solliciter des prêts qui vont financer le...
C'est fascinant.
Donc, on est encore dans le « j'ai pas une scène, j'essaie de faire de quoi », là. C'est assez intense, quand même. Et là, c'est le petit moment où parce que je trouve que ça vient lourd un petit peu de vous asséner toute cette information. C'est un jeu que j'ai prévu. Donc, c'est ça. Vous allez écouter une bande sonore et vous aurez donc le choix de choisir entre les trois choix suivants. Il s'agit d'arriver à démasquer l'ordre des films qui paraissent sur la bande sonore, et là, il y a une petite attrape, mais soyez attentifs. Rappelez-vous que le cinéma muet existait à l'époque. Donc, en version, pour le choix A, vous aurez donc l'ordre suivant, soit Le vol du Grand Rapide, La naissance d'une nation, n'oublions jamais. Ben-Hur et finalement le mécano de la générale. En B, si vous choisissez B, ce sera l'ordre suivant, n'oublions jamais. Le vol du Grand Rapide, le mécano de la générale, naissance d'une nation et finalement Ben-Hur. Ou en C, est-ce que ce sera plutôt pour vous le mécano de la générale, n'oublions jamais, naissance d'une nation, vol du Grand Rapide et finalement Ben-Hur. Donc, j'attends vos réponses.
Ben voilà, on écoute ça.
Donc, vous avez à me donner vos choix maintenant.
Pas simple, hein?
C'est
simple.
Non, c'est difficile parce que c'est pas des films qui sont placés dans le temps non plus pour vous autres. Il fallait faire une recherche même.
Fait oui,
que...
non, c'est ça. Ils sont pas sur Netflix. Là.
Mais donc, c'est un guess. François?
Oui, tu... ben moi, je vais y aller avec le A. J'ai trouvé qu'il y avait La naissance d'une nation. Moi, c'est un que j'ai essayé de placer tout de suite. Okay. Tu sais, Nation, les affaires, il y avait quelque chose qui m'interpellait dans Nation,
vieux.
Un deuxième.
Ça sonnait vieux,
c'est
oui.
Ça. Oui, mais tout ça, ce n'est pas très actuel non plus.
Ben, c'est ça qui est difficile. C'était le défi d'aujourd'hui, en fait. Mélina, toi, en ce qui
moi, je voulais y aller aussi avec A, ben là, j'ai un doute vu que François, il a pris A.
Au mot d'ordre.
La confiance,
je voulais y aller
la confiance règne.
La confiance ne règne pas.
Moi aussi, je pensais y aller avec A. J'hésitais entre A et C, mais j'ai l'impression que...
Vertique final?
Ben, ça sonnait comme le mécano à la fin, là, je trouvais, en tout cas.
Oui, aussi,
c'est j'ai envie de dire A aussi.
Ben, vous avez raison. Surtout que vous êtes. Écoutez, c'est effectivement le choix. Je suis allé dans la chronologie, c'est-à-dire que le vol du Grand Rapide, c'est un film qui traite, bien sûr,
d'un aigle.
D'un voleur. Non, d'un voleur en 1903, en fait. La naissance d'une nation qui était de 1915, Ben-Hur de 1925 et le mécano de la générale de 1927. Ce qui m'amène, bien sûr, à poursuivre avec... ces fameuses folles années 20 qui sont marquées par la production de Cécile B. 2000 avec, elle, en fait, des productions, des super productions. Donc, les majors dont on parlait tout à l'heure, là, MGM, Warner Fox Bros. Et Century, 20th Century Fox, finalement, acceptent de faire de temps en temps un film de prestige pour participer. Et là, ici, prenez bien note, autant mes animateurs, mes co-animateurs que le public, pour participer, dit-on, à l'éducation des masses. Mais c'est surtout des succès internationaux, des premiers grands western épiques, en fait, de 1900... Bon, la caravane vers l'ouest de 1903, le cheval de fer de John Ford en 1924, qui vont édifier le mythique originel de l'Amérique et de ses pionniers, en fait.
Terre de liberté.
Et voilà. Dès les années 20, donc, les grands studios invitent parfois à prix d'or des acteurs et des cinéastes européens. Pardon. L'immigration des cinéastes viennois et allemands est accélérée dans les années 30 par la montée du nazisme. On améliore ainsi la qualité esthétique du cinéma hollywoodien. Cela leur permet de parallèlement, en fait, d'éliminer les concurrents dangereux qui ne viennent pas du continent américain. Les transferts culturels et entre les cinémas européens et hollywoodiens sont dès lors faits d'hybridation, de naturalisation et de changement d'identité. En 1927, les grandes compagnies fondent l'Académie des arts et des sciences du cinéma, bien qu'au départ il s'agissait de contrer le projet d'unification des studios. Le rôle le plus connu de cette académie est de décerner les Oscars, encore aujourd'hui, une récompense annuelle prestigieuse dont le retentissement est autant artistique que commercial. Avec le déclin du cinéma muet en 1927, donc, c'est également l'année de l'avènement du cinéma parlant. Ça y est, enfin, on peut suivre et enregistrer tout ça. Cette innovation a une répercussion mondiale, donnant au cinéma une nouvelle dimension aux États-Unis. Et elle marque également la fin de l'âge d'or des comédies burlesques et de leurs gags visuels, donc Too Late ou So Bad pour Chaplin, oui. Keaton, Lloyd.
Il y a quand même quelques bons films après, mais ça a vite
Ben, disons que c'était le début de la fin en ce qui leur concerne. Donc, voilà la fin de mon premier petit bloc sur le cinéma américain.
Ben, c'était fort intéressant. Merci, André-Jean. J'espère j'espère que nos auditeurs ont aimé le petit jeu. Peut-être la prochaine fois, on pourra même mettre les questions sur Facebook
donc, j'ai
ou
appris.
Sur notre site web.
J'ai appris sur le chose. Jeu, on jouera le...
Oui, c'était intéressant.
Pour nos auditeurs, si jamais, je vous conseille d'aller voir sur le site de Cinébrunch, où Jim a fait un référent sur les films de guerre. En fait, il a fait un post là-dessus, un excellent article écrit par Jim. Je vous conseille d'aller le lire. C'est de fort grand intérêt.
C'est connexe dans la section donc notions de cinéma sur le site cinébrunch.com. Merci André-Jean.
De plaisir.
Et merci à tous. Merci François. Merci Mélina d'avoir été présent. Merci à nos auditeurs. C'était votre Cinébrunch pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 11h pour un autre Cinébrunch ou en rediffusion mardi à la même heure. Et encore une fois, toujours possible de nous écouter en rediffusion pour l'éternité sur notre site web cinébrunch.com, autant que faire se peut, ou sur votre plateforme de balado sur votre téléphone intelligent. Alors voilà, une bonne semaine à tous et on se dit à la semaine prochaine.
Ah oui, bonne semaine.
Bonne semaine. Bonne semaine.